Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Robespierre, la fabrication d'un monde » est une biographie historique de Jean-Clément Martin consacrée à Maximilien Robespierre et à sa place dans la Révolution française. L'ouvrage ne cherche ni à l'absoudre ni à le condamner, mais à comprendre comment s'est construite sa figure politique puis sa réputation posthume. Martin adopte une démarche rigoureuse, fondée sur les positions successives de Robespierre, ses alliances, ses prises de parole et le contexte mouvant de la Révolution. Le livre s'intéresse autant à l'homme qu'à la fabrication de son image par ses adversaires thermidoriens qui ont contribué à faire de lui le responsable principal de la terreur. L'ensemble propose ainsi une lecture historique et politique, destinée à replacer Robespierre dans les dynamiques de son temps plutôt qu'à en faire un personnage légendaire. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une biographie politique qui refuse le portrait psychologique. Le livre se distingue d'abord par son choix méthodologique. Jean-Clément Martin refuse de transformer Robespierre en personnage de roman psychologique ou en symbole moral absolu. Il le suit à travers ses engagements, ses prises de position et ses repositionnements au fil des événements révolutionnaires. Cette méthode permet de montrer que Robespierre n'est pas présenté comme une essence fixe, mais comme un acteur inséré dans une séquence politique instable. L'intérêt est double. D'une part, cela évite l'anachronisme qui consisterait à juger la Révolution avec des catégories contemporaines simplificatrices. D'autre part, cela rend visible la logique propre d'un homme qui construit sa place dans des rapports de force changeants. Le livre privilégie donc l'analyse historique concrète à l'interprétation psychologisante. C'est ce cadrage qui donne à l'ouvrage sa cohérence et sa sobriété, tout en le rendant exigeant pour un lecteur qui attendrait une biographie plus narrative ou plus intime. Deuxièmement, la fabrication thermidorienne du monstre Robespierre, un axe central du livre, est l'idée que la réputation monstrueuse de Robespierre a été construite après sa chute. Martin montre que les thermidoriens ont trouvé dans son exécution un moyen de se décharger de leur propre usage de la violence d'État. En faisant de lui le seul responsable de la terreur, ils ont simplifié les responsabilités collectives et déplacé le centre de gravité du récit révolutionnaire. Cette thèse est importante parce qu'elle ne nie pas la violence de la période, mais elle en conteste l'attribution exclusive à un seul homme. Le livre analyse ainsi la formation d'une légende noire qui a durablement modelé la mémoire de Robespierre. Cette perspective aide aussi à comprendre comment les vainqueurs écrivent l'histoire en sélectionnant des coupables et en stabilisant un récit utile à leur légitimation politique. Le lecteur y trouve donc une réflexion sur la fabrication des réputations historiques et sur la manière dont un adversaire vaincu peut devenir un symbole durable de l'horreur politique. Troisièmement, la Révolution française comme espace de repositionnement permanent. Martin replace Robespierre dans un contexte révolutionnaire mouvant où les identités politiques ne sont jamais fixes. L'ouvrage insiste sur la succession de ses prises de position et sur sa capacité à se situer par rapport à des camps changeants, notamment à travers des désignations comme ultra-révolutionnaire ou citra-révolutionnaire. Ces catégories montrent que la politique révolutionnaire se construit aussi par l'invention de frontières et par la désignation de l'ennemi. Robespierre apparaît alors moins comme un chef tout-puissant que comme un acteur qui travaille à définir un espace de légitimité pour son action. Cette lecture est utile parce qu'elle fait comprendre la dynamique propre de la Révolution, où les alliances, les exclusions et les accusations évoluent très vite. Le livre éclaire ainsi la logique interne de la période au lieu de la résumer à une succession de violences arbitraires. Cela donne au lecteur une compréhension plus fine des mécanismes de radicalisation politique et de leurs effets sur les trajectoires individuelles. Quatrièmement, le rapport de Robespierre à la représentation populaire et à l'égalité civique. L'ouvrage met en avant certains points de doctrine qui structurent l'action de Robespierre, en particulier sa conception de la représentation politique et de l'égalité civique. Martin rappelle l'importance de la Constituante dans sa pensée, ainsi que sa sensibilité à la question de savoir qui peut réellement représenter le peuple. Le refus du marc d'argent, qui aurait séparé citoyens actifs et passifs, illustre cette attention aux mécanismes concrets d'exclusion politique. Le livre fait ainsi apparaître un Robespierre préoccupé par les conditions d'accès à la citoyenneté et par le risque de voir la Révolution confisquée au profit des plus favorisés. Cette dimension est essentielle, car elle nuance l'image d'un homme réduit à la seule répression. Elle montre aussi que ses choix politiques s'inscrivent dans un horizon d'égalité et de souveraineté populaire, même si cet horizon se développe dans un contexte de guerre, de tension et de rupture institutionnelle. L'intérêt analytique du livre est de relier ces principes aux décisions politiques réelles plutôt que de les isoler comme de simples proclamations idéologiques. En dernier lieu, une synthèse exigeante pour comprendre l'historiographie de Robespierre, le livre s'adresse clairement à un lecteur déjà familier de la Révolution française. car il suppose une bonne connaissance des événements, des institutions et des principaux acteurs. Cette exigence fait partie de sa force. Martin ne cherche pas à vulgariser de manière simplifiée, mais à proposer une interprétation structurée de l'un des personnages les plus controversés de l'historiographie moderne. L'ouvrage est particulièrement utile pour ceux qui veulent comprendre comment les images de Robespierre ont été formées, transmises et contestées dans le temps. Il se distingue des biographies plus partisanes par son refus de choisir entre réhabilitation totale et condamnation morale. À la place, il offre une lecture politique précise et mesurée qui met en relation le destin individuel, les stratégies de pouvoir et la construction mémorielle. C'est ce positionnement qui en fait un livre important dans sa catégorie. Il n'ajoute pas seulement des faits, il reconfigure la manière de poser la question Robespierre. En conclusion, ce livre est particulièrement recommandé aux lecteurs intéressés par la Révolution française, l'histoire politique et les mécanismes de construction des mémoires historiques. Il convient bien à un public déjà informé, car Jean-Clément Martin ne simplifie pas les enchaînements révolutionnaires et suppose une certaine familiarité avec les acteurs et les événements. En retour, le lecteur gagne une vision plus nuancée de Robespierre, débarrassé des caricatures habituelles. L'intérêt principal de l'ouvrage est de montrer comment une réputation historique se fabrique, puis s'impose durablement au point de paraître évidente. Cela en fait plus qu'une biographie, c'est aussi une réflexion sur la manière dont l'histoire est écrite par les vainqueurs et stabilisée par les récits politiques. Par rapport à d'autres livres sur Robespierre, celui-ci se distingue par sa retenue interprétative, son refus du sensationnalisme et sa volonté de suivre l'homme dans ses positions concrètes plutôt que dans une légende noire ou dorée. Il apporte donc une lecture utile à la fois pour comprendre Robespierre et pour réfléchir à la fabrication des figures historiques. Si vous souhaitez soutenir Jean-Clément Martin, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt !